d'emploi. Mode d'emploi.
Sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Monde d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de l'association ATTAC.
Avec ce soir beaucoup de chroniques d'actualité et différents thèmes, et nous allons évidemment aussi évoquer le décès d'Albert Jacquard, nous allons parler des retraites, nous allons parler de la Syrie et de plein d'autres choses. Et pour commencer, Jean-Marc va nous parler de son ami Bachar el-Assad.
Oui, alors il n'y en a pas beaucoup en ce moment dans la presse et ça fait quelques mois que c'est vraiment trop injuste. Alors j'ai décidé de faire un plaidoyer pour Bachar el-Assad qui est vraiment un type sympa. Et d'abord, pour dire qu'il y en a marre, vraiment marre, que trop c'est trop et que là la coupe est pleine pour notre ami Bachar. C'est vrai quoi, tout le monde tape sur Bachar el-Assad. C'est pas original d'une part, en plus c'est sans nuance et sans délicatesse. Pourtant, Bachar el-Assad est un homme comme les autres, qui mérite attention et considération. Un homme, mais pas seulement un homme, c'est aussi un médecin. Un médecin qui, en plus, sauve des vies, donc, et tout, et tout. Personne ne parle jamais de la situation de ce pauvre homme.
Il était pas ophtalmologue, là ?
Si.
Ah, oui, d'accord.
Mais on peut mourir par les yeux, hein. D'ailleurs, la télé... de ce pauvre homme qui a prêté le serment d'Hippocrate, entre autres le serment de sauver des vies coûte que coûte. Bon, ça se voit pas beaucoup en ce moment, c'est vrai, mais c'est quand même sa formation première. Et là, il se retrouve du jour au lendemain, décrété par la communauté internationale, boucher en chef d'une guerre civile qu'il n'a même pas voulu, en fait. C'est même pas lui, puisque lui, il voulait rester, il était peinard, pépère, et voilà, on l'embête. Et pourtant, c'est pas facile. Il faut bien se rendre compte, et il faut bien, pour se plaidoyer, dire que c'est pas facile, et il y a une hérédité. C'est pas facile d'être fils et héritier de dictateur. On n'en parle pas assez. C'est difficile, psychologiquement, matériellement. On a une formation de médecin, et paf, du jour au lendemain, on est dictateur, et il faut s'y faire. C'est pas facile. D'autant qu'il y a papa, mais il n'y a pas que papa. C'est même difficile de se faire un prénom dans un métier pareil. C'est comme les gens du showbiz, quand on a un père très célèbre... Se faire un prénom, c'est dur. Bachar el-Assad essaye, mais après son père, c'est très dur. En plus, le papa était un dictateur inflexible du bon vieux temps, à l'époque où on pouvait faire vraiment tout ce qu'on voulait. On pouvait massacrer en paix, sans être dérangé, sans ingérence aucune. Le pauvre Bachar el-Assad, en plus, il a un autre problème. C'est qu'il n'y a pas que le papa. Il a un autre complexe, il a des oncles. Il y en a un qui est chef d'état-major de l'armée, l'autre qui était chef de la sécurité. Les deux rivalisent depuis 35 ans pour savoir qui torture le mieux. Prendre la relève, c'est pas facile dans une famille pareille. Il faut un peu de délicatesse pour Bachar el-Assad, j'insiste. Ça fait plus de 30 ans que la famille règne sur le pays, fiche le bazar au Liban en toute impunité, et paf, la petite affaire familiale qui marchait si bien, tout s'enraye. À cause de quelques excités qui croient qu'ils vont faire comme en Tunisie, en Égypte, alors que là, c'est la Syrie, c'est pas pareil. Bon, c'est pas marrant, ça fait juste quelques années qu'il reprend la boutique, et clac, on lui casse tout. Et qu'est-ce qu'on lui reproche, en fait, à ce pauvre Bachar el-Assad ? Quelques violations des droits de l'homme, quelques crimes contre l'humanité, quelques exécutions sommaires, des tortures, bon, quelques dizaines de milliers de gens qui ont disparu, qui ont été torturés, coupés en morceaux, brûlés, électrocutés. Mais bon, dans la région, ça se fait beaucoup. C'est finalement... pas si extraordinaire que ça. C'est à vous dégoûter de vouloir faire respecter les traditions nationales. Un petit peu de culture, pourtant ça fait pas de mal. Alors, il n'y a rien de neuf en Syrie. Bachar n'a rien inventé, ça a toujours été comme ça depuis que l'État syrien existe. Même avant Hafez el-Assad, on torturait, on exécutait. C'est une tradition nationale. Si on changeait tout ça, mais le peuple ne comprendrait plus rien. C'est d'ailleurs l'un des problèmes en Syrie. Ils n'y comprennent plus rien. Parce qu'on sort des cadres habituels. Non, vraiment, c'est trop injuste. En plus, c'est injuste parce qu'il y a quelques années encore, tout le monde recevait le grand Bachar, fils de son père, et avec tout le tralala. Rappelez-vous, il était invité d'honneur en 2007 d'un certain Nicolas Sarkozy. Il était dans la tribune officielle pour le 14 juillet 2007. Quelques semaines après, il était l'invité d'honneur du grand sommet pour la Méditerranée, invité par Sarkozy. Bon, en même temps que Kadhafi et d'autres, hein, mais bon... Vraiment, les grandes semences ne sont pas sympas. Alors, ce pauvre Bachar, qui était tellement bien accueilli partout, bah maintenant, on lui ferme la porte partout et on le traite de monstre. Évidemment, il le prend mal. Mettez-vous à sa place. En plus, avant, tout le monde lui fournissait des armes, des produits chimiques. Et du jour au lendemain, on le dit, c'est pas gentil. Pourtant, l'Angleterre a fourni les produits chimiques qui, probablement, ont servi à fabriquer les gaz qui ont été utilisés ces dernières semaines. Voilà. Maintenant, le coût du gaz, justement. C'est trop injuste. Tous les pays occidentaux produisent des gaz. C'est même eux qui les ont inventés. L'Angleterre, l'Allemagne, la France ont inventé ça à peu près à la même période, pendant la guerre de 14. Après ça, ils avaient des stocks, ils les ont vendus, ils continuent à vendre les produits chimiques qui servent à les fabriquer, ils ont un savoir-faire certain. Et là, ils viennent râler qu'il y a des méchants qui utilisent des gaz. Les autres qui râlent, c'est les Américains, qui ont balancé pendant 10 ans du napalm au Vietnam. Ceux qui râlent, c'est aussi la Turquie, qui a toujours pas reconnu le génocide arménien. Qui s'est fait d'ailleurs sur le sol syrien à l'époque. C'était déjà la tradition. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment pas sympa. C'est vraiment pas sympa et heureusement, il y a Poutine. Heureusement, il y a Poutine. Poutine, qui est quand même un gars aux mains propres. On l'a vu en Tchétchénie et dans pas mal d'endroits. Poutine, qui lui aussi a de l'expérience en matière de gaz, puisque en Russie, même la police utilise le gaz quand il y a des preneurs d'otages. On gaze les preneurs d'otages et les otages avec. C'est la technique de la police russe. Donc, il pouvait donner des conseils, c'est vrai. Et puis après, pour finir, il y a la presse. Les diplomates qui parlent de ligne rouge. La ligne rouge, la guerre sale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fait, la ligne rouge et la guerre sale? Des petites questions au hasard. Des enfants assassinés ou torturés? Pas ligne rouge. Guerre propre. 100 000 morts, la plupart civils? Pas ligne rouge. Guerre propre. Des villes pilonnées par les canons et l'aviation? Pas ligne rouge. Guerre propre. Des enfants soldats? Pas ligne rouge. Guerre propre. Utilisation du gaz? Ligne rouge. Guerre sale. Oui, c'est vrai, c'est moche, très affreux. Mais est-ce beaucoup plus sale que ce qui précède?
Une seule solution, envoyer l'ONU pour sauver ce pauvre petit Bachar isolé dans un pays sanguinaire, quoi. Alors nous allons continuer avec les dictateurs, vu qu'il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous avez vu ça sur votre calendrier, c'était la Saint-Mao, Alex.
Voilà, alors Saint-Mao, comment m'est venue l'idée de faire une rubrique sur la Saint-Mao? Dans Métro, le journal gratuit qu'on peut trouver sur toutes les bonnes banquettes du métro parisien, à côté de l'horoscope du sudoku et des mots croisés, il y a une rubrique intitulée « Le Saint du jour ». Donc en l'occurrence, le titre de ma rubrique sera « Le Saint politique de la semaine ». Pour ce rôle, j'aurais pu choisir Salvador Allende, mort un 11 septembre, plutôt que Mao, mort un 9 septembre. Mao n'avait en effet rien d'un saint, même politique. Cet homme débauché, alors c'est assez peu connu, mais il pratiquait régulièrement des partous avec des jeunes et jolies militantes.
Et responsable. C'est ce qu'on appelle le cancer du sein, ça.
Il est mort d'une leucémie. Et donc, est responsable de la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes. Les estimations faites en cumulant les victimes du grand bond en avant et celles de la révolution culturelle, plus évidemment de la répression ordinaire, varient entre 10 et 70 millions de morts. Ça dépend un peu de la tendance politique de la personne qui en parle. Alors, comment peut-on lui accoler le qualificatif de saint? Je te pose la question, Patrick. Pour comprendre, il suffit de relire les articles parus au moment de sa mort. Dans un éditorial intitulé « Le dernier dieu », Jean Daniel n'y va pas par quatre chemins. Alors je cite « Mao, tel le dieu vivant, s'est mêlé aux hommes qui voient en lui l'incarnation d'une humanité sublimée. » Il conclut son hagiographie par cette formule « Grâce au maoïsme, une révolution originale se cherche. Grâce à Mao, un état s'est retrouvé. » Ce délire autour de la dépouille du grand homme n'est pas réservé aux intellectuels germano-pratins de gauche vivant par procuration leur grand soir. Le même jour, l'Élysée sort un communiqué très officiel qui commence par ces mots devenus très célèbres. Avec la mort de Mao Tse-tung, s'éteint un phare de la pensée mondiale. Suit un texte écrit dans un style que n'aurait pas renié la Pravda si justement Mao était resté en odeur de sainteté en URSS. Le communiqué américain est un peu moins pompeux, mais tout aussi élogieux. Kissinger, à la même époque, explique à longueur d'interview à quel point Mao était un grand homme. Donc, dans cette fin d'été 76, qui a été particulièrement chaud, tout s'incline devant Mao. À gauche, c'est parce qu'on veut croire qu'une troisième voie est possible entre le stalinisme et le capitalisme et que Mao peut l'incarner. À droite, parce qu'on est fasciné par la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme, qui dirige pratiquement seul, ou du moins c'est l'apparence, un pays de 800 millions d'habitants à l'époque. Mais aussi, évidemment, par calcul. Les USA en 72 ont décidé de se rapprocher de la Chine pour mieux isoler l'Union soviétique. Aujourd'hui, à part quelques nostalgiques à la Badiou, plus personne n'ose encore se revendiquer de Mao. En Chine même, la question est complexe. Mao a toujours son portrait sur la place Tiananmen et reste officiellement le fondateur de la Chine moderne. Mais le régime actuel admet des erreurs de taille, comme la révolution culturelle. La formule qui prévaut chez les dirigeants lorsqu'il s'agit d'évoquer très pudiquement les fautes de Mao est une petite phrase de Deng Xiaoping. Mao, c'est 70% de bien et 30% de mal. Le bilan est donc globalement positif, comme aurait dit Georges Marchais. Or, les dirigeants actuels ont des très bonnes raisons, des raisons très personnelles surtout, de ne pas croire une seconde à la formule de Deng. Le propre fils de Deng Xiaoping est resté handicapé à vie après être passé entre les mains des gardes rouges au moment de la révolution culturelle. L'actuel président de la Chine, qui a été désigné il y a tout juste quelques mois, Xi Jinping, a fait partie de ces jeunes instruits envoyés à la campagne pour y être éduqués. Il n'avait alors que 15 ans et y est resté pendant 7 ans. Pour autant, ces dirigeants sont conscients qu'une véritable démaoïsation sur le modèle de la déstalinisation qui a eu en Union soviétique mettrait le régime actuel en danger. Ils sont donc obligés de composer avec une opposition dite de gauche, nostalgique de l'ordre ancien. Ces jeunes maoïstes ne savent pas grand-chose des crimes de leur idole, vu qu'on ne leur en parle pas. Ils vont en pèlerinage à Shaoshan, le lieu de naissance de Mao, où une commune populaire fonctionne encore selon les principes édictés par le Petit Livre Rouge. Ils y voient des paysans heureux, de la collectivisation des terres et des moyens de production. Mais ils y vont sans réaliser que ces agriculteurs tirent l'essentiel de leurs revenus de la vente de produits dérivés siglés Mao, des affiches, des casquettes, des livres et évidemment des costumes Mao.
Et des vieux chalets, parce que Mao, sur la montagne, était un vieux chalet.
Là où on a des cols Mao, bien sûr. Mais tout ça, ça nous fait penser à des chansons, de voir tous ces Chinois, puis un Chinois, puis un Chinois, avec par exemple Jacques Dutronc, et moi et moi.
« 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mari, c'est la vie, c'est la vie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. »
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, l'émission Monde d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants d'Attaque.
Et nous reprenons avec Gaël qui va nous parler des menaces sur la sécu qui viennent d'outre-Atlantique.
Non, d'ici. La Commission européenne a trouvé une manière assez originale de privatiser la sécu, tout simplement en pondant une directive sur les marchés publics. Alors quel est le rapport ? Quand un État ou une collectivité veut acheter des produits ou des services à des entreprises, il passe un appel d'offres. Les entreprises soumettent leurs propositions et on choisit les plus intéressantes. C'est ce qu'on appelle les marchés publics.
C'est bien, ça fait marcher la concurrence, voyons.
Voilà, et pour les finances publiques, il vaut mieux en général qu'il y ait une vraie concurrence entre les entreprises candidates, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans certains secteurs du type BTP. La Commission européenne a donc défini des règles de saine concurrence pour les marchés publics. Et le problème, c'est que la sécurité sociale figure parmi les services concernés par ces règles. Parce que la sécurité sociale, c'est un service qui doit être régi selon les lois du marché. La directive précise bien que les États restent libres de fournir ces services à caractère social eux-mêmes. Auquel cas, si la protection sociale est fournie directement par l'État, les règles du marché public ne s'appliquent pas. Le problème, c'est qu'en France, la Sécu n'est pas un organisme étatique. La Sécu, elle est co-gérée par les syndicats et le patronat. Donc pour l'Europe, la Sécu, en tant qu'organisme, c'est juste une entreprise comme les autres, qui doit donc se soumettre aux règles de la libre concurrence. Plus précisément, la directive prévoit deux possibilités. La première, c'est de passer un marché public pour la protection sociale, en assurant, je cite, « le respect total des principes de transparence et d'égalité de traitement des opérateurs économiques ». Ainsi, pour pouvoir continuer à gérer notre retraite, notre assurance chômage et notre assurance maladie, la Sécu devrait répondre à un appel d'offres où elle serait en concurrence avec des assureurs privés, avec le risque de perdre. Or, le budget de la Sécu, c'est plus que celui de l'État. Donc si la Sécu perd, ce serait un énorme transfert de richesses des caisses publiques vers des financiers privés. La seconde possibilité, c'est d'octroyer, je cite, « des licences ou autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions prédéfinies ». En clair, on serait libre de choisir sa sécurité sociale, privée ou publique, de la même manière qu'on choisit son opérateur de téléphonie mobile. Malheureusement, ce qui peut être intéressant pour la téléphonie mobile ne l'est pas forcément pour la protection sociale.
Ce qui n'est déjà pas intéressant pour la téléphonie.
D'ailleurs. Alors, pourquoi ? Parce que le principe de la Sécu, c'est que chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et pour pouvoir fonctionner selon ce principe de solidarité, la Sécu doit être universelle, c'est-à-dire en situation de monopole et obligatoire. Et si on était dans un système concurrentiel, bien chaque opérateur privé sélectionnerait les clients les plus intéressants et la Sécu publique, qui aurait tous les autres clients, serait privée de cotisation et n'offrirait plus qu'un service au rabais aux classes populaires. Alors, ce hold-up sur la protection sociale est programmé depuis au moins 2011, mais apparemment ça n'intéresse pas grand monde. Pourtant, lors de l'Alter-Sommet de juin à Athènes, des centaines d'organisations ont alerté et ont lancé une pétition. Et il y a urgence car la directive doit être votée ce mois-ci au Parlement européen. Et elle ne touche pas uniquement la protection sociale, mais tous les services sociaux. Par exemple, elle concernerait aussi les associations qui gèrent des centres aérés ou des structures médico-sociales. Toutes ces associations seraient mises en concurrence avec des entreprises privées. Donc il est temps de secouer vos députés européens.
Et de se méfier des grandes réformes qui nous tombent dessus. Alors, autre grande réforme, un petit mot, Jean-Claude.
Rappelons qu'aux États-Unis, c'est un petit peu selon un principe analogue que le président de 1973, qui est le regretté Richard Nixon, avait complètement foutu par terre le service public d'aide sociale. Et c'est comme ça qu'il avait tout donné au privé.
Et maintenant, au moins, les gens ont le choix.
Ils ont le choix de crever la gueule ouverte. Alors justement, pour ne pas gueuler la gueule ouverte vieux, nous devons nous battre contre les retraites. Alors justement, l'association ATTAC a...
Pas contre les retraites, pour
les retraites, oui, contre la réforme des retraites, pardon. Alors justement, l'association ATTAC nous vous produit un petit guide d'autodéfense en temps de réforme des retraites. C'est un petit livre avec des dessins, c'est assez rigolo, et nous allons vous en lire l'essentiel. En partant de ce premier constat, c'est que si l'avenir de nos retraites n'est pas du tout une affaire d'experts, c'est une question de société qui nous concerne tous. Et si l'on ne veut pas que ce soit les choix du MEDEF qui s'imposent, il faut pouvoir résister et comprendre ce qui nous tombe dessus. Alors, on entend pourtant tous les médias, et même dans la rue, les gens nous disent des vérités absolues. Par exemple, il y a 6 arguments qu'on entend tout le temps et qu'on nous rabâche, alors qu'en fait, on peut, chacun d'entre eux, les combattre avec des arguments très simples. Alors, un argument, par exemple ?
On vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. C'est logique.
C'est une logique absolue. C'est l'argument phare, le principal, le plus simpliste. On vit plus longtemps, certes, mais dans quelles conditions ? L'espérance de vie en bonne santé, elle, diminue. C'est historique. En 2010, elle était de 61,9 pour les hommes. Elle est passée aujourd'hui à 62,7. Non, c'est l'inverse. En 2008, elle était à 62,7. Elle est passée maintenant à 61,9. Pour les femmes, elle était en 2008 à 64,6. Elle est maintenant descendue à 63,5. Donc, pour la première fois, on voit baisser l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'au moment où les années les plus dures pour travailler sont entre 60 et 65 ans, il faudrait travailler plus longtemps pour arriver à la retraite, alors usé et malade, et même travailler au-delà des limites.
Ouais, mais une fois que la Sécu sera privée et qu'on sera vachement bien assuré, ça va remonter.
Oui, bah évidemment, on aura des meilleures dents pour manger, je sais pas. Donc toutes ces réformes, on peut même déjà le constater, ont repoussé les salariés âgés à repousser la date de leur retraite. Ceux qui voulaient partir en pré-retraite, etc., toutes ces mesures ayant disparu, travaillent de plus en plus tard. Pour ceux qui ont du boulot, bien sûr. L'espérance de vie a baissé en France en 2012, et c'est pas anodin. Elle a augmenté jusqu'en 45. Pourquoi ? Bah parce que justement, on travaillait moins vieux, et on était donc en meilleure santé quand on arrivait à certains âges. Un autre argument ?
Oui, parce que t'as beau dire ce que tu racontes, hein, la population, elle vieillit quand même. Et les retraites, elles coûtent trop cher.
Oui, bien sûr, les déficits, on nous le dit, seront mécaniques, car il y aurait désormais trop de retraités en comparaison du nombre de travailleurs actifs. Les cotisations des uns seraient donc insuffisantes pour payer les pensions des autres. Alors ça, c'est une façon de réfléchir, mais si on regarde un peu les
petits... En même temps, on en connaît des retraités profiteurs.
Plein. Mais si on regarde les petites lignes du rapport sur laquelle va se baser le gouvernement pour nous pondre la loi en décembre, le rapport Moreau, il est marqué en toutes lettres. Ce n'est pas véritablement la population qui vieillit, mais c'est la durée et l'ampleur de la crise depuis 2008 qui explique les déficits supplémentaires. Car en fait, la démographie, elle, on la connaissait depuis très longtemps. C'est pas elle qui amplifie les retraites. C'est bien la crise, enfin ce qu'on appelle la crise économique.
Pourtant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la surprise du baby-boom des années 2000.
Ah oui, on l'attendait pas, celle-là. En fait, s'il y a, et puis dans le fond, on s'en moque, hein, même s'il y a plus de retraités, est-ce qu'on va demain arrêter de donner de l'argent à ceux qui en ont besoin dans un système de retraite? Est-ce qu'on pourrait pas trouver d'autres systèmes pour financer? Par exemple, d'après le Conseil Orientation des Retraites, il suffit d'1% de la recherche nationale brute en plus de ce qui est dépensé aujourd'hui en 2020 pour équilibrer le système des recettes. Alors que aujourd'hui, 8% de la richesse nationale a basculé des salaires vers les revenus financiers dans les 4 dernières décennies. On peut peut-être faire un petit effort de rebascule pour arriver à faire ça. Puis tous ceux qui nous parlent des différentes nouvelles types de retraites, comme les retraites par répartition qui sont nulles, on va remplacer ça par des retraites par capitalisation.
Ouais. Sinon, il y a le système de la décimation.
Oui, c'est un bon système. On l'oublie fortement.
Ouais, mais j'ai un autre argument, parce que, mais tu l'as dit toi-même, c'est la crise, il n'y a plus d'argent dans les caisses, il faut bien en trouver.
Alors, c'est la crise, il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais d'où vient ce manque d'argent? Si on regarde l'économie actuelle, c'est dans la ligne droite des politiques d'austérité qui partout en Europe font baisser. Tous les pays d'Europe ont décidé de baisser les pensions de 30% à peu près dans l'Europe du Sud, dans tous les pays comme Grèce, Espagne, et l'âge de retraite augmente tout le temps. Mais ce sont ces politiques qui, justement, font de l'austérité là et qui ont entretenu la crise, la récession en Europe. Et aujourd'hui, même le Fonds monétaire international, le FMI, reconnaît que c'est bien cette crise qui est responsable de tout, et c'est l'austérité qui produit la crise, etc. Il faudrait arriver à briser ce cercle-là. Faut penser que ce n'est pas la crise pour tout le monde, hein. En 2012, les 500 Français les plus riches ont vu leur fortune croître de 25%. Hein. Les dividendes reversés aux actionnaires sont au plus haut niveau historique. L'évasion fiscale des hauts revenus, dont on a parlé à la dernière émission, des entreprises représente plus de 60 milliards d'euros de manque à gagner pour la collectivité. On pourrait trouver de l'argent là où il y en a.
Ouais, mais donc le problème, c'est la crise. Pour lutter contre la crise, il faut augmenter la compétitivité des entreprises et la compétitivité de l'économie en général. Et pour ça, il faut faire une réforme.
Ah oui, réformer, mais quel est le seul mot à la bouche des gouvernements réformateurs en Europe et en France en particulier, dans un beau gouvernement socialiste, c'est plus de croissance. Il n'y a pas qu'une seule solution. Donc il faut faire une politique pour qu'il y ait plus de croissance, en faisant des cadeaux aux grandes entreprises. Et pourtant, ce système de retraite par répartition, lui, sort du système capitaliste traditionnel. Et dans cette logique-là, on peut voir qu'on a un système qui marche bien, qui est un petit peu déséquilibré. A contrario, on a un système où on donne de l'argent aux entreprises pour qu'il y ait plus d'emplois, qui ne marche pas. On fait des cadeaux de plus en plus gros depuis des décennies, en prouvant une inefficacité totale. Ça ne marche pas. On fait des cadeaux, il n'y a pas plus d'emplois.
C'est pas du tout inefficace. Les actionnaires se portent très bien.
Ouais, mais on a un gouvernement socialiste. Donc, on a une réforme des retraites juste, contrairement aux réformes des retraites de la droite.
Ah oui, ça, on nous a même dit qu'elle serait équitablement répartie.
Et en plus, elle a été concertée.
Elle a été concertée, tout à fait. Pourtant, la durée de cotisation qui s'allonge, si on regarde bien, ça fait une diminution du montant des pensions pour chaque trimestre. Manquant. Ce qu'on pourrait dire, c'est pratiquement une sanction, qu'on appelle une décote pour faire joli, mais c'est une sanction. On pénalise la pension à hauteur de 5% par année manquante. Pour toutes les gens, comme typiquement les femmes ou les jeunes d'aujourd'hui ou les chômeurs qui n'ont pas pu travailler toute leur vie, hein, parce que c'est le seul objectif de la vie, on le sait, pour tous ces précaires, l'allongement va être synonyme de diminution du montant des pensions. Pour un jeune aujourd'hui, c'est même double peine. On va exiger 44 ans de cotisation alors qu'on pense qu'un jeune d'aujourd'hui aura à peu près 35 ans d'espérance de vie professionnelle s'il a la chance, si c'est une chance, de trouver un travail. C'est une véritable provocation. Hein, si on regarde, toutes les inégalités vont être aggravées par cela. Et on vient de dire aussi qu'il y avait une retraite qui est le fruit de la consultation et du dialogue, hein, dernier argument, de conférences sociales ou autres, avec soi-disant l'écoute des syndicats. Les syndicats disent qu'ils ont une oreille de sourd. Par contre, cette parodie va vite être bouclée, vu que dès l'automne, on y aura un vote définitif pour être souhaité en décembre. La concertation ayant commencé dans l'été, et la première, on va dire, il a fallu faire grève mardi pour entendre parler d'un peu d'autres sons de cloche à cette réforme. Alors la conclusion, c'est contre la résignation, mobilisons-nous. La retraite par répartition n'est pas un fardeau, elle est une transmission solidaire de la prise en charge de chaque génération par les suivantes. C'est quand même beau, on a rarement ce genre de phrase, et en plus c'est réel depuis plus d'un siècle. Le fardeau, c'est le coût de la finance, de l'austérité, de la compétitivité, c'est pas celui du travail ni des retraites. Quelle société voulons-nous ? Les pistes alternatives existent pour garantir une retraite de qualité en bonne santé sur la base d'une répartition juste des richesses, dans le cadre d'une société soutenable où il fait bon vivre. Pour promouvoir, développer, imposer, expérimenter, construire une nouvelle société, mobilisons-nous. C'est une belle conclusion, celle-là. Ou alors, une autre conclusion, hein, c'est de partir jeune à la retraite avec Féfé.
Pas le temps pour le dance floor, faut que demain je me lève tôt. Pile poil entre la relève et la remise, je suis un jeune à la retraite. Oh, j'ai pas le temps pour le dance floor.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires.
Et nous reprenons nos chroniques avec Boris qui va nous parler de l'actualité de l'été. À Notre-Dame-des-Landes.
Voilà, tout à fait. Alors, comme vous le savez, un grand rassemblement a eu lieu le premier week-end d'août à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, pour s'opposer au projet d'aéroport du Grand Ouest. Près de 200 comités de soutien étaient présents, ainsi que plusieurs milliers de personnes. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, cher au cœur du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes, est censé remplacer en 2017 l'actuel aérogare de Nantes Atlantique, situé au sud de l'agglomération. Le projet est chiffré à 650 millions d'euros. Les opposants à ce projet récusent l'argument selon lequel la plateforme actuelle serait menacée de saturation. Et au-delà, ils s'opposent au bétonnage et à la destruction des fermes et de terres agricoles. Les plus radicaux, les zadistes, pour zone d'aménagement différé rebaptisée zone à défendre, ont décidé d'occuper le terrain et d'y vivre dans la tradition des squats et s'opposent plus globalement au capitalisme, à visage humain et aux grands projets inutiles. Fin juin, le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, assurait que les travaux ne commenceraient pas tant que, je cite, « la faisabilité des mesures de compensation environnementale ne serait pas démontrée ». L'Europe doit également se prononcer sur cette question à la rentrée. Mardi dernier, 300 opposants à l'aéroport, escortés par 13 tracteurs, se sont rassemblés devant la cour d'appel de Rennes. La première chambre civile évoquait en effet l'affaire de l'évacuation du squat de la ferme de Bellevue ordonnée par le tribunal de Saint-Nazaire et contestée par les 18 agriculteurs occupants. La Cour rendra son arrêt le 22 octobre. Un effet collatéral de cette lutte, c'est la démission du journaliste Hervé Kempf du quotidien Le Monde, pour lequel il était chargé des questions d'environnement depuis 1998. Il explique cette démission dans un texte intitulé « Adieu le monde, vive reporter ». Reporter écrit T-E-2-R-E. Ce journaliste a suivi le dossier de Notre-Dame-des-Landes depuis 2007, rencontrant sur place des protagonistes du projet d'aéroport. Il y enquête en 2009, en présentant les arguments des uns et des autres, dans ce qui fut un des premiers articles de la presse nationale abordant en détail le sujet. Plus fort, Hervé Kempf écrit, je cite, « Je consacrais 3 chroniques aux événements, dont 2 peuvent être qualifiées de scoop. Le 14 octobre 2012, j'avertissais l'imminence d'une intervention policière qui se produisit le 16 octobre. Le 21 octobre, je montrais que l'affaire n'était pas locale, mais nationale. Le 3 novembre, je révélais que M. Hagelstein, le préfet de Loire-Atlantique, qui avait préparé l'appel d'offres que remporterait ultérieurement la compagnie Vinci, avait été plus tard embauché par cette entreprise. Mais petit à petit, sans entrer dans les détails, la direction l'a écarté du dossier, considérant qu'il était trop engagé. Il s'en défend en justifiant qu'il savait séparer les choses entre son travail de journaliste et celui de militant. Mais le mal était fait. L'évolution du journal, qu'il détaille par ailleurs dans un autre texte, n'y est peut-être pas étrangère. En juin 2010 a eu lieu la prise de contrôle du journal par messieurs Berger, Niel et Pigas, avec une autre idée de ce que devait être ce quotidien. Voici enfin un extrait de ce qu'écrit Hervé Kempf. Je cite « Plus tard, des indices concordants me firent penser que l'hypothèse de pression d'un propriétaire sur le journal à propos de Notre-Dame-des-Landes était pensable. Ce sont des indices, je n'ai pas de preuves, je les publierai si cela était nécessaire au public. Mais mon propos n'est pas de savoir pourquoi la direction du Monde a bloqué mon travail de journaliste. S'il y a eu pression, elle devait y résister. S'il n'y en a pas eu, elle devait me laisser faire mon travail. Le journal aurait pu discuter des sujets, travailler des angles, m'associer à un autre journaliste. Mais non, la direction ne discutait pas, elle interdisait. Le contrat de liberté qui fonde la légitimité de la presse a été rompu. D'où sa démission. Cette affaire montre encore une fois combien il est difficile pour certains journalistes de travailler de manière éthique quand les enjeux supérieurs réduisent leur marge de manœuvre et poussent leur direction à éviter les sujets qui fâchent. Ennuyeux, surtout pour un journal comme Le Monde qui se veut de référence. La question de l'engagement est finalement un faux masque. Oui, Le Figaro est engagé. Oui, La Croix est engagée. Beaucoup plus clairement que Le Monde. Beaucoup de journalistes le sont aussi, mais cela ne les empêche pas de faire leur travail. Hervé Camp se consacre aujourd'hui au site Reporter, que je vous invite à consulter. Il a publié plusieurs livres qui sont toujours d'actualité, « Comment les riches détruisent la planète ». En 2007, « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie » en 2011 et « Fin de l'Occident, naissance du monde » en 2013.
Oui, parce qu'il y a un paquet de porcs qui salissent notre planète, voire même de porcs épiques.
Oh oui, parce que à notre époque si peu épique, sévissent les porcs épiques. Époque si peu épique que c'est une époque de porcs qui piquent.
Porcs.
Et porcs, c'est comme ça, c'est l'époque qui veut ça. Jouons à la marelle, chantons des ritournelles, répétons les cantines. Gros et gras, les porcs qui piquent et piquent des kilogrammes, se bourrent de ratatam, font du ramdam, piquent gram. À notre époque, si peu épique, nous enfonce les porcs qui piquent, à fond opaque. Nous piquent du fric en vrac, fric, frac, gonfle le frac, pète le froc, pète de fric et te fracasse et te fricasse. Fracassé dans ta fricassée, ric rac, et toi tu rac. Et tu te retrouves à poil, épilé de tous tes poils. Pile et poil, Amstram poil, pile poil. Qui se frotte au porc épique, qui s'y frotte, s'y pique. Qui se frotte au porc épique, qui s'y frotte, s'y pique.
Porqué.
Porqué, c'est comme ça, c'est l'époque qui veut ça. Porc épique, porc épicé, pour poisseux qui portent poisse, pisse la poisse, poisse la pisse. Pour toi, il n'y a pas de place. Porc épique qui porte chic, porc épique qui porte choc. Piqué par le porc épique, t'avise pas de porter plainte. Pas la peine que tu t'expliques, il te met la tête en épingle. Et toi, tu gicles. Si tu rejambes, il te repique et tu regicles. Again.
Porqué.
Porqué, c'est comme ça. C'est l'époque qui veut ça. Porqué, pourquoi nous piquent les porcs, les porcs épiques?
Pique.
Porc épique, à pique, notre pique, époque. Si peu épiques, où s'épanouissent, et sur notre dos se nourrissent pic, poc, les porcs épiques, sans remords et sans équivoque, ça l'époque. Oui, ça les mecs, on peut le dire, ça l'époque est très sale époque. C'est l'époque où nous salissent les porcs épiques et leurs complices. Il est temps que l'on salit, il est temps que l'on s'unisse pour leur piquer leur piquant. Mort aux porcs épiques, piquons aussi notre colère. Mort aux porcs épiques, piquons-les aussi, à terre. Porqué, c'est comme ça. C'est le peuple qui veut ça.
Après une enquête serrée de la rédaction, il paraît que Patrick ne prend aucune substance.
Strictement aucune, nous en avons malheureusement toutes les preuves. On poursuit sur nos grands thèmes. On a parlé des retraites, on a parlé de la sauvegarde de la sécu, de notre nature à préserver. Et nous allons aller un petit peu plus loin en essayant de construire une utopie nouvelle, une utopie, un revenu garanti, qui serait peut-être finalement pas si loin que ça. Alors, un revenu garanti, qu'est-ce que c'est? Ça serait assurer à chacun, sans condition de la naissance à la mort, une somme mensuelle suffisante pour vivre. C'est quand même impressionnant. Inventer une autre vie, d'autres rapports sociaux. Hein, est-ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui en période de crise? Ben, pourtant, ça n'a jamais été autant le cas dans une période aussi noire. Alors, pourtant, on travaille. Hein, pour vivre, pour ceux qui peuvent travailler.
Et ceux qui en ont besoin, parce qu'il y en a qui vivent très bien sans travailler.
Pourtant, on vit très bien sans travailler.
Bernard Arnault et compagnie.
Oui, enfin, ils vont t'expliquer qu'ils travaillent, hein, qu'ils ont travaillé. C'est leur sueur qui leur fait acheter de si belles maisons.
C'est primaire comme raisonnement. Ça.
Voilà. Le Liliane Bettencourt.
Et c'est primaire.
Donc cette logique du travail est inscrite dans nos esprits. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Si on regarde les bourses étudiants, les congés parentaux, les pensions de retraite, les allocations familiales, les indemnités de chômage, les régimes français des intermittents du spectacle, les minima sociaux, toutes ces prestations ont en commun de découpler revenus et travail. On peut pas dire qu'ils soient suffisants pour vivre. Hein. Tous ces petits revenus-là ne sont pas au niveau de ce que peut fournir un travail rémunérateur. Mais ils montrent qu'un revenu garanti est une utopie qui est déjà là. On a mesuré qu'en Allemagne, le revenu de la population ne provient directement du travail qu'à hauteur de 41%. Et en France, les revenus d'individus dépendent à 30% de la redistribution grâce aux allocations diverses. Alors, de quoi parlerait-on de ce revenu exact? Parce qu'on entend parfois un peu de temps en temps de différents bords. On a des libéraux qui en parlent, des démocrates chrétiens, même Christine Boutin est pour un revenu minimum. Mais c'est plutôt un revenu plus proche de la charité pour tous. Hein. C'est un montant trop faible pour que l'on puisse se passer d'emploi.
Non, ouais, mais pas pour les PD, hein.
Certainement, un petit peu de décence. Dans une version de gauche, au contraire, il doit être suffisant pour permettre de vivre. Même si la définition de ce suffisant pose, on s'en doute, des questions épineuses. On ne le conçoit pas comme une tension, comme une défense des services publics et des prestations sociales. Hein. Il faut pouvoir penser que cette allocation universelle ne serait pas au remplacement des autres allocations. Hein, typiquement, quelqu'un qui aurait un revenu minimum mais qui aurait aucun autre revenu devrait quand même pouvoir avoir mensuellement des aides supplémentaires. En attendant, comme on dit en Cayenne.
Travailler, c'est trop dur et voler, c'est pas beau. Penser, demander la charité, c'est quelque chose que je ne veux pas faire.
Oui, car sur un plan philosophique, un revenu garanti minimum pose des questions fortes. Puisque ça implique, par exemple, de renoncer à notre objectif de plein emploi dans notre société et d'admettre qu'on puisse subsister sans exercer toute activité rémunérée. Une révolution. Ainsi, chacun pourrait choisir ce qu'il souhaite faire de sa vie. Soit continuer à travailler, soit conserver la jouissance de son temps en se contentant d'un niveau de consommation modeste. Soit même d'alterner entre les deux. Pourquoi toujours travailler à fond, toujours se reposer, on pourrait passer de l'un à l'autre. Les périodes de remploi seraient alors plus suspectes quand on arriverait face à un employeur. Bah voilà, je vais pas travailler parce que j'avais bien le droit de le faire. On pourrait imaginer alors un nouveau type de travail. Les gens se rassembleraient en association libre. On créerait alors une entreprise, pas pour gagner de l'argent, mais pour être utile à la société ou pour faire quelque chose qu'on a envie de faire. Ça serait des nouveaux modes de socialisation.
C'est l'expérience des coopératives du Venezuela, par exemple.
Ou de plusieurs entreprises qu'on voit naître un peu partout en France, où les usines qui fonctionnaient bien, où les gens avaient une certaine apprécié à travailler ensemble, ont essayé de conserver leur emploi contre vent et marée. Et on nous dit souvent l'oisiveté pour l'ouvrier, hein. On le fait avec une grosse voix, ouais, c'est l'alcoolisme, c'est le développement de la violence, la délinquance. Non, justement, un revenu minimum, c'est abandonner cette soi-disant logique absolue. Hein. C'est la remise en question de toute une norme de société et entre autres d'une norme de travail. Alors c'est pas évident de remettre en cause le travail parce que même des combats et des luttes sociales sont un travail pour tous, sont des revenus décents par le travail. On dit même que le travail est une source irremplaçable de dignité et de réalisation de soi. C'est un paradoxe, hein, parce que c'est la défense du travail qui motive certains partisans du revenu garanti. C'est permettre que les gens pourraient travailler différemment. Alors, ce droit au travail, qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut s'interroger sur un autre droit, c'est-à-dire peut-il exister un droit à être obligé de faire quelque chose? Est-ce qu'on pourrait pas avoir un revenu de base qui permettrait à certains salariés de ne plus l'être et aux chômeurs, qui souhaiteraient en revanche travailler, d'occuper alors un nouvel emploi? On pourrait même imaginer ce que serait une grève longue durée avec un revenu minimal. Je pense que celles-là, elles atteindraient leur but. Alors toutes ces belles idées, si vous voulez les retrouver, vous le trouvez dans le dossier du monde diplomatique de mai 2013. J'ai oublié de le citer. En attendant, vu qu'on n'a toujours pas de réponse, on va faire comme Alpha Blondie.
Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire.
Mais si on va toujours dans cette idée de se poser des questions et qu'on écoute par exemple André Gorze, un philosophe qui s'est beaucoup posé des questions sur l'écosocialisme. Si on lit dans une citation, il nous dit « Dans l'ensemble des pays capitalistes d'Europe, on produit 3 à 4 fois plus de richesses qu'il y a 35 ans. Cette production n'exige pas 3 fois plus d'heures de travail, mais une quantité de travail beaucoup plus faible. Nous sortons de la civilisation du travail, mais nous en sortons à reculons. Et nous entrons à reculons dans une civilisation du temps libéré, incapable de la voir et de la vouloir, incapable de faire une certaine répartition. » Alors, pourtant on est dans un gouvernement de gauche, et André Gorze s'ajoute « La tâche d'une gauche, si gauche il doit y avoir, consiste à transformer cette libération du temps en une liberté nouvelle et à des droits nouveaux. » On en est très loin. On commence à mettre de plus en plus de chômeurs et à obliger les gens, comme on le disait pour les retraites tout à l'heure, à travailler encore plus. Alors, il reste encore une question forte, hein. C'est comment financer ce revenu minimum, cette allocation universelle. Alors, on nous dit que c'est impossible à financer. Pourtant, si on reprend des chiffres qu'on a déjà cités tout à l'heure, si on prend le produit intérieur brut français, en le répartissant à tout le monde, on arriverait en 2010 à 1276 euros par mois et par personne, adultes et enfants confondus. Donc, on pourrait bénéficier en France d'un revenu suffisant pour offrir à chacun 1276 euros par mois. Je pense que certains seraient heureux. Peut-être certains trouveraient que c'est trop bas, mais certains seraient heureux de cette somme. C'est en tout cas au-dessus du revenu médian, qui est de 960 euros par personne actuellement. Ça serait quand même un avancé phénoménal. Donc, on peut dire que le financement est un faux problème. Par contre, c'est comment faire cette répartition. Il y a plusieurs solutions. Par exemple, une solution pourrait être d'augmenter la TVA, hein, pour répartir, vu que c'est un impôt qui est touché à tout le monde. Attention, les gens qui auraient des faibles revenus avec une TVA qui augmente, on pourrait penser que ça leur prend dans une poche pour leur mettre, donne de l'argent dans une poche pour enlever de l'autre. On pourrait continuer aussi à taxer les entreprises, productivité, hausse des cotisations sociales, mais si on veut changer la société, c'est pas en comptant sur la productivité des entreprises ou de la croissance qu'on va financer. Une bonne solution, ça serait une augmentation de l'ordre à 30 à 50% du taux moyen de l'impôt sur le revenu. Sachant que tout le monde aurait un revenu, ça serait un chiffre qui serait relativement réparti avec des catégories, hein, un impôt, comme on dit, progressif sur les différentes catégories de revenus. En sachant qu'avec tout ça, on ferait disparaître le chômage. Donc plus besoin d'avoir toute une infrastructure pour compenser tous ces problèmes-là. On pourrait aussi enlever les cadeaux faits aux entreprises. Enlever aussi une bonne partie des organismes qui gèrent les allocations sociales. On gagnerait aussi de l'argent sur ces tableaux. En attendant, comme dit Julien Clerc...
Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire.
Et on passe à l'agenda. Boris va nous parler de la fête de l'humanité.
Alors voilà, ça commence aujourd'hui, hein, donc nous n'y sommes pas. Et donc ce week-end à la Courneuve, le stand d'Attaque France est situé dans le forum des associations à le Nina Simone. Donc un apéritif militant est offert par Attaque. Il est prévu samedi à 18h. La participation est ouverte aux adhérents et aux sympathisants d'Attaque.
On en parlait, les retraites, c'est un choix de société. Une réunion débat aura lieu avec Christiane Marty, qui est membre du conseil scientifique d'Attaque et de la Fondation Copernic. Ce sera le mercredi 18 septembre à 19h30 au 75, qui se situe logiquement au 75 boulevard Vincent Auriol, Paris 13e.
Débat autour de Paris sans le peuple. Débat organisé par Quilombo au CICP en présence de l'auteur Anne Clerval. Où est passé le peuple parisien ? Quelle place la ville de Paris accorde-t-elle aujourd'hui aux classes populaires, etc. Mercredi 18 septembre 2013 à 20h, Centre international de culture populaire, 21 Terre, rue Voltaire, Paris 11e.
Jean-Marc, sur un rencontre-débat sur la Grèce.
Alors, organisé par le FASTI, Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés, avec Frédéric Lemaire de Attaque, qui traitera la situation socio-économique en Grèce et les impacts de la politique d'austérité. Laurence Pilan, doctorante associée aux travaux de Migre Europe. Grégory Lassalle, réalisateur, qui reviendra sur la vie des migrants pris au piège en Grèce. Donc tout cela aura lieu le vendredi 20 septembre à 19h, 58 rue des Amandiers, Paris 20e.
Et alors, toujours sur les retraites, une réunion animée par Verven Angéli d'Attaque et Bernard Friot du réseau salarial, et qui est aussi un sociologue important, et qui est intitulé « Retraite, assez de mensonges » et sera lieu le lundi 23 septembre à 19h30, comme vous et moi, 5 rue de la Révolution à Montreuil.
La fête de la Commune 2013, organisée par les Amis de la Commune, a lieu le samedi 28 septembre de 14h30 à 20h, place de la Commune, dans le 13e. Tout le programme sur wcommune1871.org.
Et toujours sur les retraites, un meeting contre la réforme des retraites, organisé par un collectif unitaire, sera mis en place...
Oui, parce que sur la page, on a sur deux pages. C'est un peu compliqué à lire cet agenda.
Donc, les réseaux d'Île-de-France organisent... Donc, il y aura un événement national, mais en Île-de-France, l'événement est prévu le vendredi 4 octobre à 18h sur une place parisienne. Alors, pour l'instant, c'est Stalingrad, mais c'est pas sûr. Donc, il faudra vérifier cette information.
Après une enquête serrée de la rédaction, Boris ne boit pas.
Le 27 septembre, le GIEC rendra son rapport tant attendu sur le climat. Et pour fêter ça, le dimanche 6 octobre, il y aura une journée de mobilisation citoyenne à Bayonne. Ça s'appelle Alternativa 2013, le village des alternatives. Donc ce sera un village d'alternatives individuelles, collectives, territoriales et systémiques au changement climatique et à la crise énergétique. On attend des milliers de personnes, il y aura plus de 100 intervenants et conférenciers, des expos, des stands, des projections, des démonstrations pratiques, le tout à Bayonne.
Les 15 ans d'attaque, eh oui, la soirée des 15 ans d'attaque aura lieu le vendredi 15 novembre au Cabaret Sauvage, Paris 19e. Soirée festive et dansante, avec une programmation musicale et militante pour fêter les 15 ans donc de l'association. Plus d'informations à suivre sous peu sur le site d'attaque. Ça devrait se passer très bien si Jean-Marc n'est pas là, on verra.
Mais Jean-Marc est encore là et on va parler un tout petit peu d'un fait de société beaucoup moins gai que celui d'un agenda festif comme celui-ci. C'est passé la semaine quelques jours, un bijoutier pour se défendre à Marseille a abattu d'un coup de revolver le voleur.
Alors le fait divers, et justement un fait divers, c'est quelque chose qui se produit régulièrement, mais il n'y a pas de quoi faire non plus la une des journaux pendant des jours et des jours. Sauf que nous avons un journalisme poubelle qui se développe et qui est très friand de des faits divers plutôt que des informations. Alors que nous avons des informations que nous avons relayées ce soir, comme les retraites, qui sont un petit peu importantes, on parle à longueur de journaux et de une de journaux de ce genre de faits divers, et de celui-là en particulier, ce qui permet de libérer encore une fois tous les démons de la parole publique sur Internet, avec des soutiens par milliers pour ce bijoutier qui certes en avait peut-être marre d'être agressé, mais qui a quand même buté un type, et il y a des milliers d'interventions pour dire que il avait raison, qu'il faut bien se défendre, etc., etc. Ce qui montre non seulement le malaise dans lequel tombe le journalisme actuel, qui est un journalisme poubelle, mais aussi la perte de repères de notre société, puisqu'on ne voit même plus que dans une société de droit, on ne peut pas se faire justice soi-même et que toute personne qui enfreint cette règle est un criminel. Et ça rappelle une histoire d'il y a quelques années où deux inspecteurs du travail ont été tués par un agriculteur, et à l'époque, la presse et les réseaux sociaux étaient encombrés de commentaires sur le pauvre agriculteur et rien sur les deux inspecteurs du travail. On a donc une perte de moralité, une perte de repères juridiques dans notre société qui commence à faire froid dans le dos, peut-être plus que les faits divers qui ont toujours existé.
Ce fait divers était à Nice et non à Marseille, mais un autre chiffre sur un fait divers de société, c'est qu'à Marseille, un sondage, avec tout ce qu'on pense des sondages, nous dit qu'une bonne partie des Français aimeraient que l'armée intervienne dans les quartiers nord. Je ne sais pas trop ce qu'un militaire va faire dans un quartier nord à Marseille, enfin...
On peut demander à Bachar, il a l'habitude d'intervenir dans les quartiers.
L'aviation, comme pour Pinochet aussi.
Oui.
L'aviation sur le palais.
Nous avons trouvé des solutions. Les solutions, il y avait quelqu'un qui en avait beaucoup. Et on va terminer l'émission avec lui. C'est Albert Jacquard, qui est parti il y a deux jours, en laissant énormément de pensées, de livres. Et
il n'a pas laissé d'adresse.
Il n'a pas laissé d'adresse, non. Mais il nous a laissé énormément de pensées positives, comme on dit parfois, de bonnes formules. Et parmi toutes ces bonnes formules, on va écouter ce qu'il disait en janvier 2012, lors des 4 ans... je ne sais plus exactement l'occasion, qui était organisée par le DAL. Et à cette conférence, il a prononcé peut-être une de ses dernières interventions où il rassemblait en 3 minutes toute sa pensée de Jacquard. On enchaînera derrière par les têtes raides qui défendent tous des thèmes que Jacquard portait, comme celui entre autres des sans-papiers, ou comme disait Jacquard plutôt, plus de papiers pour personne. Et nous disons au revoir à nos auditeurs en tout cas, et nous remercions tous ceux qui ont participé à l'émission, Patrick, Jean-Marc, Alex, Gaël, Boris et Claude à la technique.
On parle tous les jours de crise, mais je ne crois pas que le mot soit bien choisi. Une crise de larmes, ça commence et ça s'arrête. On attend la fin. La crise que vit actuellement l'humanité, elle n'aura pas de fin. Car ça n'est pas une crise que nous vivons, c'est une mutation, c'est-à-dire un changement complet de la signification des mots. Je prends un exemple. J'ai défilé avec beaucoup d'entre vous dans les rues de Paris en faisant de grands cris on demandait des papiers pour tous. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait peut-être un peu changer de slogan. Quelle serait belle l'humanité s'il n'y avait de papiers pour personne. Est vrai aussi pour le logement. Il faut repenser complètement l'objectif. L'objectif, c'est que tout le monde ait un abri, que tout le monde soit dignement logé. Comment y parvenir? On ne pourra y parvenir qu'en remettant en cause complètement le droit de propriété. Très curieux. Très curieusement, la plupart des constitutions des États font état du droit de propriété. Ça semble être un besoin des hommes. Les hommes n'ont pas besoin de droit de propriété. Ils ont besoin de contact, de rencontre. C'est de ça qu'ils ont besoin. Par conséquent, il faut remettre en cause la façon même dont nous répartissons les richesses de la planète. Cette planète, nous nous apercevons qu'elle est toute petite, vraiment très petite, et qu'il est absurde de la découper en petits morceaux. Celui-là, le morceau est à moi, celui-là est à toi. En fait, la planète appartient à tous. Imaginez mon utopie, le jour où on nous admettra que les propriétés, que les richesses offertes par la Terre aux hommes sont des richesses qui n'appartiennent à personne. Qu'elles soient offertes par la Terre ou qu'elles soient créées par les hommes, à qui appartient un chef-d'œuvre, il n'appartient même pas à celui qui l'a fait. Il appartient à tous les hommes. Mona Lisa m'appartient. Tous les hommes de la Terre sont propriétaires de Mona Lisa. C'est cela qu'il faut comprendre. Nous sommes maintenant à l'aurore d'une humanité qui pourrait être magnifique. Ce n'est pas un crépuscule, c'est une aurore. Une aurore splendide qui a été merveilleusement mise en place par un poète, Jean Giraudoux, qui fait dire à un de ses personnages comment est-ce qu'on dit qu'on est lorsque on s'aperçoit que tout va mal, que les gens s'entretuent, comment est-ce que ça s'appelle? Et la réponse de Jean Giraudoux, et cela s'appelle l'aurore. Eh bien, c'est peut-être ça le vrai signe de notre rencontre. Nous devons vivre une aurore.